Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Baba Batra, page 146, Daf Kuf Mem Vav. Bonne écoute et bon limoud.
Lorsque le pasuk dit Kol Yemei Ani Ra'im, tous les jours du pauvre sont mauvais, dans le sens simple de ce pasuk, et que les jours du pauvre sont toujours mauvais parce qu'il n'a jamais rien de bon à manger. Alors la question se pose, Vaika Shabbatot V'yamim Tovim, pourtant il y a le Shabbat et les jours de Yom Tov, où il mange bien parce que même s'il n'a pas de lui-même, il reçoit en général de la nourriture d'autres personnes. Donc finalement, on ne peut pas dire que tous les jours du pauvre sont mauvais parce qu'il mange bien au moins une fois par semaine. Je m'en réponds que de Shmuel, comme Shmuel l'a enseigné, Damar Shmuel, chez Louis Vesset, Trilat Roli. Tout changement d'habitude est un début de maladie. C'est-à-dire, puisque le pauvre mange mal toute la semaine, lorsqu'il change ses habitudes pour manger un bon repas le Shabbat, puisque son corps n'est pas habitué à ce genre de nourriture, il y aura donc facilement une indigestion. Finalement, même le Shabbat, ce pauvre souffrira. Steve Besefer Ben Sira. Il est écrit dans le livre écrit par Ben Sira, lorsque le Shlomo Ameler a dit dans Michelet, Kol Yemei Ani Ra'im, tous les jours du pauvre sont mauvais, là-dessus, Ben Sira dit là-dessus, Aftelot, même ses nuits sont mauvaises. Autrement dit, même la nuit, lorsqu'il pense s'échapper de ses malheurs, il est quand même en train de souffrir. Et cela parce que, Be'chef El Gagim Gago, son toit se trouve en dessous des toits de ses voisins. C'est-à-dire, puisqu'il ne possède pas beaucoup d'argent, il a construit la construction la plus basse, il se trouve donc que son toit est le plus bas. Par conséquent, lorsqu'il pleut, Mimetar Gagim Legago, l'eau de pluie provenant des toits environnants s'écoule sur son toit, puisque son toit est de mauvaise qualité, souvent il fuit. Donc non seulement il se ramasse l'eau provenant de son toit, mais aussi celle provenant des toits avoisinants. Finalement donc, non seulement il souffre la journée, mais même la nuit aussi il souffre. En plus, Berum Harim Karmo, son vignoble se trouve dans les hauteurs des montagnes. Autrement dit, il ne peut se permettre que d'acheter des terrains dont personne ne veut. Par exemple, ceux qui se trouvent en haut de la montagne. Par conséquent, Meafar Karmo Lekramim, sous l'effet du vent et de la pluie, la terre de son vignoble et les engrais qu'il y a apportés sont entraînés vers les vignobles des voisins qui se trouvent en dessous. Finalement, même après avoir souffert pour travailler sa terre, il n'aura pas de répit parce qu'il n'en profitera pas beaucoup. Nous avons fini ici le shiur de Baba Batra Daf Kuf Mem He.
Nous commençons le shiur de Baba Batra Daf Kuf Mem Vav à la Mishnah. Alors la Mishnah dit Hasholeach Sivlonot Lebet Hamiv, celui qui envoie des cadeaux de fiançailles à la maisonnée de son beau-père. C'est-à-dire, l'usage était à l'époque que le lendemain des fiançailles, donc des Kiddushin, le fiancé envoyait des cadeaux comme de la nourriture et des bijoux à sa fiancée et à ses beaux-parents. Lorsqu'il emmenait les cadeaux, l'usage était de lui offrir un repas. Alors la Mishnah continue, « Shalach sham mea mané, s'il a envoyé des cadeaux d'une valeur de 100 mané, soit 6000 zouz, ve'achal sham seudat chatan, et il a mangé là-bas le repas offert au fiancé, comme nous l'avons expliqué, à filou bedinar, ne serait-ce que de la valeur d'un dinar, donc d'un zouz, puis l'un des deux est décédé, ou bien le fiancé a décidé de la divorcer, avant le mariage, enan nigbin, ces cadeaux ne pourront pas être encaissés. Autrement dit, le fiancé ou sa famille, le cas échéant, ne pourra pas les réclamer, parce que nous estimons que le fiancé avait décidé de laisser ses cadeaux à sa belle famille, même si le mariage était annulé pour une raison ou une autre, en échange du repas qu'il avait reçu. Nous préciserons que cette partie de la Mishnah parle d'un cas où le fiancé avait donné ses cadeaux sans précision. La Gemara expliquera de quel type de cadeau il s'agit. Lo achal sham soudat khatam. Par contre, si le fiancé n'avait pas mangé le repas du fiancé, puis le mariage a été annulé pour une raison ou une autre, harel ou nikbin, ces cadeaux pourront être encaissés, autrement dit, le fiancé pourra les réclamer. Shalar sivlonot merubin. Si le fiancé avait envoyé de nombreux cadeaux, shiarzeru ima levet baala, en précisant qu'il voulait que ces cadeaux retournent avec elle à la maison de son mari, autrement dit, que ces cadeaux sont destinés à être utilisés après le mariage. En fait, l'usage était de préciser que les cadeaux étaient destinés à être utilisés après le mariage uniquement lorsque le fiancé envoyait de nombreux cadeaux, mais en fait, la halakha sera la même s'il envoyait peu de cadeaux. Hare elu nikbin, ces cadeaux pourront être encaissés si le mariage est annulé. Autrement dit, dans ce cas, le fiancé pourra les réclamer. Et ce, même si on lui a offert le repas du fiancé lorsqu'il a offert ses cadeaux. Siblonot Muatin, s'il envoyait peu de cadeaux chez Tishtamesh Bahen Bevet Avia, en précisant qu'ils sont destinés à être utilisés dans la maison de son père, donc avant le mariage, pendant la période des fiançailles. D'ailleurs, la halakha sera la même s'il envoyait beaucoup de cadeaux en précisant qu'ils sont destinés à être utilisés avant le mariage. En Nigbin, ces cadeaux ne pourront pas être encaissés en cas d'annulation du mariage. Autrement dit, le fiancé ne pourra pas les réclamer. Et ce, même si on ne lui a pas offert de repas lorsqu'il a amené ses cadeaux. Nous avons vu donc dans la Mishnah que dans le cas où le fiancé a donné des cadeaux de fiançailles, si on lui a offert le repas du fiancé, puis le mariage a été annulé, il ne pourra plus réclamer les cadeaux, parce que comme nous l'avons expliqué, nous estimons qu'en échange de ce repas, il avait décidé de laisser ses cadeaux à sa belle famille, même si le mariage était annulé par la suite, mais si aucun repas ne lui a été offert, il pourra les réclamer par la suite, en cas d'annulation du mariage. Alors la Gemara dit là-dessus, « Amar Rava, dav kadinar, c'est seulement si on lui a offert un repas d'une valeur d'un dinar, soit un zouz, aval pachot medinar, mais si on lui a offert un repas d'une valeur de moins d'un dinar, l'eau, non. Dans ce cas, nous estimons qu'il n'a pas renoncé à ses droits sur ses cadeaux. Si le mariage donc était annulé par la suite, il pourra les réclamer. Alors la Gemara demande, Pshita, c'est évident, dinar tnan. Il est enseigné clairement dans la Mishnah que si le fiancé a reçu un repas d'une valeur d'un dinar, il ne pourra plus réclamer ses cadeaux. Nous comprenons donc que si la valeur du repas qu'il a reçu était de moins d'un dinar, il pourra toujours les réclamer. La Gemara répond, Maud et Tema. En nous appuyant uniquement sur la Mishnah, on aurait pu dire Huadin de Afilu Pachot Medinar. La halakha sera la même si le fiancé a reçu un repas d'une valeur de moins d'un dinar. Vehaï de Katane Dinar est la raison pour laquelle la Mishnah précise que le fiancé a reçu un repas d'une valeur d'un dinar. Urcha de Milta Katane. La Mishnah parle de l'usage. En effet, l'usage était d'offrir un repas d'une valeur d'au moins un dinar. Kamash Malan. C'est pour cela que Rava a eu besoin de nous enseigner que s'il a reçu un repas d'une valeur de moins d'un dinar, le fiancé pourra toujours réclamer ses cadeaux en cas d'annulation du mariage. Alors la Gemara maintenant pose une suite de questions. Achal Tnan, il est enseigné dans notre Mishnah que si le fiancé a mangé un repas, il renonce à ses droits sur ses cadeaux. Alors la question se pose, Shata Mai, quelle est la halakha s'il a reçu à boire une boisson d'une valeur d'un dinar, est-ce qu'il a renoncé à ses cadeaux ou non? Deuxième question, Hu Tnan. La Mishnah parle d'un cas où c'est lui-même, donc le fiancé qui s'est présenté et qui a reçu ce repas. Shlucho Mai. La question se pose, quelle est la halakha dans le cas d'un émissaire? C'est-à-dire si le fiancé a envoyé ses cadeaux par l'intermédiaire d'un émissaire et c'est à lui que le repas a été offert. Est-ce que dans ce cas, nous disons aussi que le fiancé a perdu le droit de réclamer ses cadeaux ou non? Troisième question, Shamtnan. Il est enseigné dans la Mishnah que si le fiancé s'est présenté chez ses beaux-parents pour offrir des cadeaux et on lui a offert un repas, il a perdu ses droits de réclamer ses cadeaux par la suite. La question se pose, Shigerlo Mai, quelle est la halakha si ses beaux-parents lui ont envoyé par la suite un repas chez lui à la maison? Est-ce que dans ce cas aussi nous disons qu'il a perdu ses droits de réclamer ses cadeaux ou non? La Gemara répond, Tashma, viens écoute une preuve d'un enseignement. D'Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Maaseh Be'adam Echad Sheshagar Lebet Chamiv. Il y a une histoire avec un homme qui a envoyé à la maison de ses beaux-parents, après les fiançailles, mais à Kronot, chez le Kadé Yaïn, Véchel Kadé Shemen, 100 chariots remplis de fûts de vin et de fûts d'huile, Véchel Kle Kesef, Véchel Kle Zahav, et remplis d'ustensiles d'argent et d'ustensiles d'or, Véchel Kle Milat, et aussi remplis d'habits de soie, Vérachav Bessimchato, et dans sa joie d'avoir offert un si grand cadeau, il a chevauché, donc sur un cheval pour accompagner ses cadeaux, et il est parti, il s'est présenté à la porte de son beau-père. Et on lui a sorti, donc on lui a offert un verre de boisson chaude. Et il a bu cette boisson, donc toujours sur son cheval, à la porte de son beau-père. Oumet, puis il est décédé par la suite, avant le mariage. Et la question s'est posée, est-ce que sa famille peut réclamer ses cadeaux ou non? Alors Shmuel a dit là-dessus, « Vezu ha'alacha he'ela rabbi acha sarabira » Voici la halakha que Rabbi Acha, le chef de la capitale, a présenté l'Ifne Chachamim le Husha devant les sages, donc devant le tribunal suprême qui siégeait dans la ville de Husha. Ve'amru, et les Chachamim ont dit là-dessus, Sivlanot ha'asuyin libalot, les cadeaux de fiançailles destinés à être usés avant le mariage, par exemple de la nourriture, en nigbin, ceux-ci ne pourront pas être encaissés, donc ne pourront pas être réclamés par la famille du fiancé, parce qu'on lui a offert une boisson chaude lorsqu'il a offert ses cadeaux. Mais les cadeaux qui ne sont pas destinés à être usés avant le mariage, comme les ustensiles d'argent et d'or, nigbin, ceux-ci pourraient être encaissés, donc la famille du fiancé pourra les réclamer, parce que nous estimons que même si le fiancé n'avait rien précisé, ces cadeaux étaient destinés à être utilisés après le mariage. Par conséquent, même si on lui a offert un repas ou une boisson chaude, il n'a quand même pas perdu les droits de les réclamer. Shma Amina, nous pouvons donc déduire de cet enseignement de Shmuel, Afilushata, même si le fiancé a simplement bu, donc on lui a simplement offert une boisson, il a perdu les droits de réclamer les cadeaux qu'il a envoyés. Quand la Gemara demande, Shmat Mina Afilu Pachot Medinar, nous pouvons aussi déduire de là que même si on lui a offert un repas d'une valeur de moins d'un dinar, il a perdu ses droits de réclamer ses cadeaux, parce que finalement on lui a simplement offert une boisson. La Gemara répond, Amar Ravashi, Man Le Malan, qui nous dit de l'Oshar Kele Marganita, qu'on ne lui avait pas broyé une pierre précieuse de Shavia Alfezouze, qui valait 1000 zouz, VHK, et on lui a offert à boire, comme les princes le faisaient à l'époque en tant que remède. Finalement donc, il a reçu une boisson d'une grande valeur. C'est pour cela qu'il aurait perdu ses droits de réclamer les cadeaux. La Gemara demande, Shmat Mina Filou Shigrulo. Nous pouvons déduire de l'enseignement de Shmuel que si, après que le fiancé a apporté ses cadeaux, ses beaux-parents ont simplement envoyé un repas chez lui à la maison, quand même, il a perdu ses droits de réclamer ses cadeaux. Parce que dans cette histoire, le fiancé n'était même pas rentré chez ses beaux-parents, parce qu'ils lui ont simplement servi à boire devant leur porte. Et quand même, les Chachamim ont dit qu'il a perdu ses droits de réclamer ses cadeaux. La Gemara répond, Dilma kol petach bet chamiv, peut-être que toute la porte de la maison des beaux-parents, kebet chamiv d'ami, est considérée comme la maison de son beau-père. Autrement dit, la seule chose que nous pouvons déduire de l'enseignement de Shmuel, c'est que même si on lui a servi à manger ou à boire devant leur porte, nous considérons cela comme s'il avait été invité dans la maison. Par conséquent, il a perdu ses droits de réclamer ses cadeaux par la suite. Mais si ses beaux-parents ne lui ont pas servi à manger, mais ils lui ont envoyé un repas chez lui à la maison, il se peut que cet acte ne soit pas jugé suffisamment important pour considérer que le fiancé a renoncé à ses droits de réclamer ses cadeaux par la suite. Finalement, nous avons pu déduire de l'enseignement de Shmuel uniquement que la boisson est considérée comme un repas. Mais si ce n'est pas le fiancé qui s'est présenté, mais il a envoyé ses cadeaux par l'intermédiaire d'un émissaire, ou bien si ses beaux-parents ont simplement envoyé un repas chez lui à la maison, dans ces deux cas, ce sont des questions qui restent sans réponse. Ibaya lehu, les Chachamim se sont posés la question suivante. Mahu shiyeshalesh, est-ce qu'il partage? C'est-à-dire, nous avons vu que si le fiancé a reçu un repas d'une valeur d'un dinar, il a renoncé à ses droits de réclamer les cadeaux. Alors la question se pose, s'il a reçu un repas d'une valeur de moins d'un dinar, par exemple, d'une valeur de la moitié d'un dinar, est-ce qu'il partagera, c'est-à-dire, est-ce que nous disons qu'il a renoncé à la moitié de ses cadeaux, ou à un pourcentage des cadeaux équivalent à la valeur de son repas qu'il a reçu par rapport à un dinar? Alors c'est une question qui reste sans réponse. Deuxième question, Shevach Sivlonot Mahu, à qui reviennent les bénéfices de ses cadeaux de fiançailles? C'est-à-dire, s'il a offert des animaux, par exemple, et ils ont donné des petits, est-ce que ces bénéfices reviennent au fiancé lorsqu'il peut réclamer les cadeaux, ou bien nous disons que les bénéfices reviennent aux beaux-parents? Alors la Gemara précise, qui vandei itnehu? Est-ce que nous disons que puisque si ces cadeaux existent encore, les didei hadrei, ils reviennent intégralement au fiancé lorsqu'il peut les réclamer? Par conséquent, nous dirons que birshutei shavuach, que c'est en possession du fiancé que sont venus ces bénéfices, odilma, ou bien est-ce que nous disons, qui vandei avde, si ces cadeaux de fiancé disparaissent au migneve, ou bien s'ils ont été volés, ba'e shulumele, ils doivent lui rembourser la contre-valeur, birshuta dida shavuach, c'est en possession de la fiancée que ces bénéfices sont venus. Par conséquent, ces bénéfices resteront chez la fiancée, elle ne devra rendre que le capital, donc le cadeau qu'elle a reçu. La Gemara conclut là-dessus, Teku, c'est une question qui reste sans réponse, Eliyahu répondra. Ba'e Rava, Rava a posé la question suivante. Sivlonot ha'asuyin libalot, les cadeaux qui sont destinés à être usés avant le mariage, velo balou, mais ils n'ont pas été usés lorsque le mariage a été annulé, et que les cadeaux sont réclamés, mahu, quelle est la halakha? Est-ce que le fiancé peut le réclamer, même si un repas lui a été offert lorsqu'il a amené ses cadeaux, de la même manière qu'il peut réclamer les cadeaux qui ne sont pas destinés à être usés? Parce que nous dirions qu'en recevant le repas, il a simplement renoncé ses droits de réclamer la contre-valeur des cadeaux qu'il a offerts, mais il n'a pas renoncé à ses droits de réclamer les cadeaux qu'il a offerts, s'ils existent encore. Ou bien est-ce que nous dirons que même si les cadeaux n'ont pas été usés, il a quand même renoncé à ses droits de le réclamer en recevant ce repas? Alors l'Agma répond, Tashma, viens, écoute une preuve de l'enseignement que nous avons vu plus haut. Vezu halakha he'ela rabbi acha sa rabira lifne chachamim beusha. Et ceci est la halakha que Rabbi Acha, le chef de la capitale, a présenté devant les chachamim, donc le tribunal suprême qui siégeait dans la ville de Usha. Ve'amrou, les chachamim ont dit, Siblonot ha'asuyin libalot, les cadeaux qui sont destinés à être usés avant le mariage, en nikbin, ne pourront pas être encaissés, donc ne pourront pas être réclamés, ve'she'en asuyin libalot, mais les cadeaux qui ne sont pas destinés à être usés avant le mariage, nikbin, pourront être encaissés, donc pourront être réclamés. Nous voyons donc que le fiancé a renoncé à ses droits de réclamer les cadeaux qui sont destinés à être usés. My love, n'est-ce pas que le fiancé ne peut pas les réclamer à Falgav de l'Obalou, même s'ils n'ont pas été usés? L'Agma répond, l'eau, ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre cet enseignement. Des balous, c'est uniquement s'ils ont été usés que le fiancé ne peut plus les réclamer. Alors l'Agma continue, Tashma, bien écoute une preuve de notre Mishnah. En effet, notre Mishnah dit, si vlanot muatin, shetishtamesh bahen vehi bevet avia, si le fiancé a envoyé peu de cadeaux en précisant qu'ils sont destinés à ce qu'il les utilise dans la maison de son père, donc avant le mariage, en nikbin, ils ne seront pas encaissés. Autrement dit, le fiancé ne pourra pas les réclamer. Alors, comme l'explique le Maharsha, la seule différence qu'il y a entre le cas où le fiancé a précisé que ses cadeaux étaient destinés à être utilisés avant le mariage et le cas où il n'y a rien précisé et on lui a offert un repas, c'est que dans le cas où il n'a rien précisé, même si on lui a offert un repas, nous estimons qu'il a renoncé à réclamer uniquement les cadeaux destinés à être usés avant le mariage, alors que s'il a précisé clairement que ces cadeaux sont destinés à être utilisés avant le mariage, nous estimons qu'il a renoncé à réclamer même les cadeaux qui ne sont pas destinés à être usés avant le mariage. Par conséquent, la même question se posera, à savoir, si le fiancé renonce à ses droits de réclamer les cadeaux uniquement si ceux-ci ont été usés ou s'ils ont disparu pour une autre raison, ou bien est-ce que nous disons qu'il a renoncé à ses droits, même si ces cadeaux existent encore? Alors, l'Agmara comprend que puisque la Mishnah n'a rien précisé, nous pouvons conclure que le fiancé ne peut pas réclamer ses cadeaux, même s'ils existent encore. Si c'est ainsi, nous pourrons prouver de là que le fiancé renonce à ses droits de réclamer ses cadeaux, même s'ils existent encore. L'Agmara répond, Tirgema Rava. Rava a interprété notre Mishnah, Beyeva Vesavtecha, qu'il s'agit de cadeaux de peu de valeur, comme les nœuds que les femmes attachent dans les cheveux, ou bien des foulards. Donc, puisqu'il s'agit de cadeaux de peu de valeur, nous estimons que le fiancé a renoncé à ses droits de les réclamer, même s'ils existent encore. Mais toujours, nous pourrons nous poser la question, lorsqu'il s'agit de cadeaux de grande valeur, est-ce que le fiancé a renoncé à ses droits de les réclamer, s'ils existent encore? Amar Rav Yehuda Amar Rav, Ma'aseh be'adam echad. Il y a une histoire avec un homme chez Shiger le Bet Hamiv qui a envoyé comme cadeau de fiançailles à la maison de son beau-père Yain Chadash ve Shemen Chadash, du vin nouveau et de la nouvelle huile, donc provenant de la nouvelle récolte, ou Klei Pishtan Chadash, et des habits de lin aussi de la nouvelle récolte, Be'atzeret, à l'occasion de la fête de Shavuot. Alors la Gemara demande, Maïka Mashmanan, qu'est-ce que Rav Yehuda vient nous enseigner en nous racontant cette histoire? L'Agma répond, Ibaïtema, si tu veux, je te dirai Hashivuta d'Eret Israël Kamashmalam. Rav Yehuda vient nous enseigner l'importance d'Eret Israël. Autrement dit, il vient nous raconter les louanges d'Eret Israël, où on peut trouver du vin, de l'huile et des habits de lin de la nouvelle récolte, déjà à la fête de Shavuot. Ibaïtema, et si tu veux, je te donnerai une autre explication, des Itaïn, que de là nous pouvons apprendre que si le fiancé présente l'argument qu'il a offert des produits de la nouvelle récolte à l'occasion de la fête de Shavuot, Tante Tana, son argument sera accepté. Nous ne dirons pas que c'est un mensonge, parce que nous voyons que cette chose est possible, comme nous le voyons dans l'histoire racontée par Rav Yehuda. Amar Rav Yehuda Amarav, Maaseh Be'adam Echad, il y a une histoire avec un homme, chez Amroulo, à qui des gens ont dit, Ishto Totraniti, que sa femme a un défaut dans l'odorat, qu'elle ne peut rien sentir. Il s'agit d'un défaut qui peut annuler le mariage. Or, il est vrai que, comme la Gemara l'explique dans Ktuvot Daf Ayin Bet, il devra quand même lui donner un acte de divorce. Cependant, il pourra la divorcer sans lui payer la Ktuba. Venichnas achareha le churba. Il est rentré après elle dans une ruine. C'est-à-dire, il s'est isolé avec elle dans une ruine, le bodka, pour la tester. C'est-à-dire, pour vérifier si elle a réellement ce défaut ou non. Il est rentré avec un radis en poche. Amarla, il lui a dit, Re'artznon ani meriach begalil. Je sens l'odeur d'un radis provenant de la Galilée. Cet endroit était proche de la Galilée.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Kouf Mem Vav Amud Bet. Amrale, elle lui a dit, donc elle lui a répondu parce qu'elle a senti qu'il voulait la tester. On lui a répondu en blaguant, Manya Hivlan Mikotavot de Yericho, qui nous donnera des dattes provenant de la ville de Yericho vers Khalnabé, et je les mangerai avec ce radis. En effet, l'usage était à l'époque de manger des aliments sucrés avec des aliments forts comme les radis. Nafal Allah Khurba Umeta. La ruine s'est écroulée sur cette femme et elle est décédée. Alors le mari est venu se présenter devant le tribunal pour réclamer son héritage. Amrou Chachamim, les Chachamim ont dit là-dessus, Ho'il velo nichnas achareha, ela le bodka. Puisque cet homme n'a suivi sa femme et s'est isolé avec elle uniquement pour la tester, c'est-à-dire s'il s'avérait qu'elle avait effectivement ce défaut, il avait décidé de la divorcer. Dans ce cas, Meta et Nayorcha. Si cette femme est décédée, son mari ne l'hérite pas. D'ailleurs, nous déduisons d'ici que toute personne qui a décidé de divorcer sa femme ne l'hérite pas si elle meurt entre temps. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit, Sivlonot Muatim Shetishtamesh Bahen Bepetavia, s'il a envoyé une petite quantité de cadeaux de fiançailles, en précisant qu'ils sont destinés à être utilisés dans la maison de son père, donc avant le mariage, le fiancé ne pourra pas les réclamer. Yativ Ravin Sava Kamed Rav Papa. Ravin Saba, l'ancien, était assis devant Rav Papa. Yativ Kamar, il était assis et il disait l'enseignement suivant. Ben Shemetahi ou Ben Shemethu, soit si c'est la fiancée qui est décédée, soit si c'est le fiancé qui est décédé avant le mariage, Hadarhu, ou bien s'il a changé d'avis, il a décidé de la divorcer. Dans tous ces cas, Sivlonot Hadre, les cadeaux de fiançailles devront être rendus si le fiancé les a donnés sans précision. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu précédemment, tout cadeau qui n'est pas destiné à être usé avant le mariage devra être rendu en toutes circonstances. Ma'achal ou michté, par contre, s'il a offert de la nourriture ou de la boisson, lohadar, cette nourriture ne sera pas rendue si on lui a offert un repas lorsqu'il a offert ses cadeaux. Et cela comme nous l'avons vu précédemment. Dans le cas où il avait précisé que ces cadeaux sont destinés à être utilisés avant le mariage, même si ce sont des cadeaux qui ne sont pas destinés à être usés, quand même, il ne pourra pas les réclamer, même si on ne lui a pas offert de repas, comme nous l'avons expliqué. Hadraba ihi, mais si c'est elle qui a changé d'avis, elle a demandé le divorce. Hadra afilu kisha de'arka, elle devra rendre même les bottes de légumes qu'elle a reçues en cadeau, c'est-à-dire même les choses de peu de valeur. Cela parce que nous estimons qu'il n'a sûrement rien voulu donner, si c'est elle qui exige le divorce. Cependant, elle n'aura pas l'obligation de rendre les kiddushin qu'elle a reçus, comme nous l'avons vu précédemment d'Av Kouf Memhe Amoud Aleph. Cependant, puisqu'il est évident qu'elle n'aurait pas consommé tant de nourriture et de la nourriture tellement chère si elle savait qu'elle devait payer, elle ne devra pas payer la totalité de leur valeur, mais plutôt Amar Avuna Bered Rav Yoshua Veshamin Lahem Deme Basar Bezol, et on évalue cette nourriture comme si c'était de la viande pas chère. La Gemara demande Ad Kama Bezol, que veut dire pas cher, c'est-à-dire à combien de moins que la valeur réelle devra-t-on évaluer la nourriture qu'elle a reçue? La Gemara répond Ad Tilta, jusqu'à un tiers de moins que la valeur réelle de la nourriture qu'elle a reçue. Autrement dit, elle ne paiera que les deux tiers de la valeur de la nourriture qu'elle a reçue. Et cela parce que nous estimons que n'importe quelle personne était prête à acheter cette nourriture à un prix tellement bas. Nouvelle Mishnah. Shriv Mera Shekatav Kol Nechassav Leacherim. Un malade qui a rédigé un testament dans lequel il léguait tous ses biens à d'autres personnes. Bishier Karka Kol Sheu. Et il a laissé un terrain même d'une petite taille. La Gemara en donnera la taille, donc un petit terrain qu'il n'a pas légué, matanato kayemet, son cadeau est valable, par conséquent, même s'il se rétablit, il ne pourra pas changer d'avis. Mais cela parce que nous voyons qu'il s'est gardé un petit morceau de terrain, apparemment il n'a pas donné ses biens parce qu'il pensait mourir, mais plutôt il s'agit d'un cadeau qu'il a fait sincèrement. Par conséquent, il ne pourra pas changer d'avis, même s'il se rétablit. comme nous le verrons plus loin, il s'agit d'un cas où un acte d'acquisition a eu lieu, et c'est pour cela donc que ce cadeau sera valable, même avant le décès de ce malade. Mais s'il n'a pas laissé de côté un petit morceau de terrain, donc finalement il a partagé tous ses biens, nous estimons qu'il l'a fait parce qu'il pensait mourir, parce que sans cela, il n'aurait pas partagé tous ses biens pour être réduit à la mendicité. Par conséquent, s'il se rétablit, en matanato kayemet, son cadeau n'est pas valable. Et cela, même s'il a fait un acte d'acquisition. Parce que nous sommes persuadés que son cadeau était sincère uniquement s'il venait à mourir. Nous précisons cependant que si ce malade est effectivement décédé, son cadeau ou son legs sera valable. Et cela, même s'il n'y a pas eu d'acte d'acquisition. Parce que comme nous l'avons mentionné à plusieurs reprises, que pour le cadeau d'un mourant, l'acte d'acquisition n'est pas nécessaire pour conclure cette transaction. Alors l'Agmar dit là-dessus, « Mantana de azlinan batarum dena » Quel est le Tana qui pense que nous suivons notre estimation de l'intention d'une personne, parce que nous annulons ici le cadeau de ce malade en vertu de notre estimation de son intention de ne le donner que s'il venait à mourir. L'Agmar répond, « Amar Rav Nachman, Rabbi Shimon ben Menasiahi » L'auteur de notre Mishnah est Rabbi Shimon ben Menasiah de Tanya, parce qu'il a été enseigné dans une Braïta. « Hare sha'alar beno lemdinatayam » Voici une personne dont le fils est parti à l'étranger, « Veshama shemet beno » Et cette personne a entendu que son fils est décédé. « Vamad vekatav kol nechassav leacher » Puis il s'est levé, il a rédigé un testament léguant tous ses biens à une autre personne. « Vachakar ba beno » Puis son fils est revenu, il s'est donc avéré qu'il était toujours vivant. « Matanato matana » Son cadeau est valable, parce qu'il n'a pas posé de conditions dans son legs. Rabbi Shimon ben Menasiah Omer, « En matanato matana » Son cadeau n'est pas valable. « Sheil male haya yodea shebeno kayam » Parce que s'il savait que son fils était encore vivant, « Lo haya kodvan » Il n'aurait jamais rédigé un testament léguant ses biens à une autre personne. Nous voyons donc que Rabbi Shimon s'appuie sur son estimation des intentions de cette personne pour annuler le testament qu'il a rédigé sans condition. Nous pourrons dire donc que l'auteur de notre Mishnah est aussi Rabbi Shimon ben Menasiah. Selon lui, le cadeau sera annulé si cette personne se rétablit, parce que nous nous appuyons sur notre estimation de son intention, qu'il est évident que cette personne n'a fait ses cadeaux ou ses legs uniquement dans la mesure où il venait à mourir. Rav Sheshet Amar, Rabbi Shimon Shezurihi. L'auteur de notre Mishnah est Rabbi Shimon Shezuri. Selon le Masoret Hashas, nous lisons ici d'Etnan, parce qu'il a été enseigné dans une Mishnah dans Gitin Daf Samehe Amud Bet, concernant celui qui divorce sa femme par l'intermédiaire d'un émissaire. L'alakha est que pour nommer un émissaire pour divorcer sa femme, une personne devra dire à l'émissaire, fais écrire un acte de divorce et transmets-le à ma femme. S'il ne précise pas qu'il doit le transmettre, l'ordre de mission est jugé insuffisant et ne pourra donc pas divorcer la femme. Il existe néanmoins des situations où par préoccupation, le mari n'a pas terminé sa phrase, mais quand même, nous jugeons l'ordre de mission suffisant. Il s'agit notamment d'un cas d'une personne qui risque de mourir sans laisser d'enfant. Sa femme sera donc sujette à la mitzvah du hiboum, c'est-à-dire elle ne pourra se marier avec personne d'autre que son beau-frère, à moins de procéder à la cérémonie de la chalitza. Pour éviter cette situation, le mari a tout intérêt à divorcer sa femme avant sa mort. Alors la Mishnah dit, « Barishona, au début, hayu omrim, les chachamim disaient, hayotze bakolar, celui qui sortait enchaîné pour être exécuté, ve'amar kitvuget leishti, il a dit à ceux qui l'entouraient, écrivez un acte de divorce à ma femme, sans terminer sa phrase en disant, et transmettez-le lui. Nous préciserons qu'il s'agit d'une personne sans enfant, et il veut donc éviter que sa femme soit sujette au hiboum. Hare elu yirtevu ve'itnu, ceux qui l'ont entendu pourront écrire un acte de divorce et le transmettre à la femme. Parce que nous estimons que c'était parce qu'il était préoccupé qu'il n'a pas terminé sa phrase. Chazrou l'Omar, les Chachamim en sont revenus à dire, Af hamefaresh ve'ayotze be'she'ara, même celui qui s'apprête à faire un voyage en mer ou à faire un voyage en caravane dans le désert, peuvent être considérés comme des personnes préoccupées. Par conséquent, même s'ils disent simplement avant de partir, écrivez un acte de divorce, sans terminer la phrase en disant et transmettez-le lui, ceux qui les entendent pourront écrire l'acte de divorce et le transmettre à la femme. Rabbi Shimon Shezuri Omer, Af hamesukan, même celui qui est en danger, donc une personne atteinte d'une maladie mortelle et qui dit « écrivez un acte de divorce à ma femme », ceux qui l'entendent pourront écrire un acte de divorce et le transmettre, même s'il n'a pas terminé sa phrase en disant « et transmettez-le lui ». Nous voyons dans cette Mishnah que notamment Rabbi Shimon Shezuri pense que nous nous appuyons sur notre estimation des intentions de cette personne pour divorcer la femme. Et c'est pour cela donc qu'on transmet l'acte de divorce à la femme, même si le mari ne l'a pas précisé. Nous pourrons dire donc que l'auteur de notre Mishnah sera Rabbi Shimon Chezouri, et c'est pour cela donc que nous nous appuyons sur notre estimation de son intention pour annuler le cadeau qu'il a fait s'il se rétablit. La Gemara demande Rav Nachman Maitama lo mukim lah ki Rabbi Shimon Chezouri. Pourquoi est-ce que Rav Nachman n'a pas établi notre Mishnah selon l'opinion de Rabbi Shimon Chezouri? Pourquoi a-t-il choisi de dire que notre Mishnah suit l'opinion de Rabbi Shimon ben Menassia? La Gemara répond Shani atam de Amar kitvu. Là-bas c'est différent parce que le mari a dit écrivez un acte de divorce. Il est donc évident que s'il a demandé d'écrire un acte de divorce, c'est pour le transmettre à la femme. Il ne s'agit donc pas simplement d'une estimation de son intention, mais nous voyons son intention clairement. Alors que dans notre Mishnah, nous devons nous appuyer sur une estimation de son intention, nous ne pourrons donc rien prouver de Rabbi Shimon Chezouri. Alors la Gemara demande, Rav Sheshet, Maitama, lo mokim lah, ki Rabbi Shimon ben Menassia. Pourquoi est-ce que Rav Sheshet n'a pas établi notre Mishnah selon l'opinion de Rabbi Shimon ben Menassia? Pourquoi dit-il que notre Mishnah suit l'opinion de Rabbi Shimon Chezouri? La Gemara répond, Umdena de Mukhar Shani. Lorsqu'il s'agit d'une estimation sûre, c'est différent. C'est-à-dire, Rav Sheshet considère le cas enseigné par Rabbi Shimon ben Menassia d'une personne qui a légué tous ses biens lorsqu'il a entendu que son fils était décédé comme une estimation sûre. En effet, puisque nous voyons que cette personne n'a légué ses biens que lorsqu'il a entendu que son fils était décédé, nous pouvons donc être persuadés qu'il ne l'aurait pas fait si son fils était encore vivant. C'est pour cela donc que lorsqu'il s'avère que son fils était encore vivant, ce legs est annulé. Par contre, dans le cas d'une personne qui donne l'ordre d'écrire un acte de divorce, il se peut qu'il avait une autre intention. Par exemple, il se peut qu'il avait l'intention que cet acte de divorce soit prêt pour le transmettre lorsqu'il en donnerait l'ordre. Il s'agit donc d'une estimation moins sûre de son intention. Si quand même Rabbi Shimon Chezouri s'appuie sur cette estimation pour permettre de divorcer cette femme, nous pouvons donc prouver que nous nous appuyons sur l'estimation de l'intention d'une personne. Donc dans le cas de notre Mishnah, si nous voyons que nous nous appuyons sur l'estimation de son intention pour annuler le legs s'il se rétablit, forcément, c'est que notre Mishnah suit l'opinion de Rabbi Shimon Chezouri et non pas celle de Rabbi Shimon ben Menassia. Parce que, comme nous l'avons expliqué, de Rabbi Shimon ben Menassia, nous ne pouvons rien prouver. La Gemara demande, Mantana leha, quel est l'auteur de la Braïta qui suit? De Tanur Rabbanan, parce que nos Chachamim ont enseigné dans une Braïta. Hare Shahaya Chole Umutal Bemita. Voici qu'une personne était malade et était couchée dans son lit. Vem Roulo et les gens qui l'entouraient lui ont posé la question suivante, Nechasecha lemi, à qui vont revenir tes biens? Vamar lahem, et il leur a répondu.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.